Le bac du passage par Françoise Mangeot. Œuvre publiée sous licence Art libre. En lecture libre sur atramenta.net. Enregistrée par Christiane Johan pour audiocité.net. Illustration musicale sous téléchargement libre Bill Chatham par Check That Little Foot, World Folk. Source archive.org. Détails check-that-little-foot. Licence creativecommons.org. BYNCSA 2.0. Téléchargement libre sur www.aubautdufil.com. Le bac du passage. 1. Ce matin, le teuf-teuf poussif et familier d'un moteur de bateau m'a attiré à la fenêtre. J'ai le bonheur de vivre au bord de la mer. Mon horizon, ce sont les murailles de la vieille ville dont me sépare le chenal d'accès au port de pêche. En perte d'activité, c'est vrai, mais doublé de chantiers navals dont l'essor se confirme. Si l'on y ajoute la grande et la petite plaisance, en plein épanouissement, on obtient une incessante activité. Quelques moteurs ont ronronnement caractéristique, tels ceux des douanes et des phares et balises, se reconnaissent sans peine. Mais celui qui m'a fait, pour l'écouter quelques instants, braver le fort crachin que le vent drossait contre ma fenêtre, est très particulier. Je l'ai reconnu tout de suite. Ce bateau, petit, trapu, coque vert billard et toit blanc, c'est le gouverneur, le bac du passage, en semi-retraite depuis le printemps dernier. Il pète, il crache, il pue, bref, il est inimitable. Et tous ses usagers, réguliers ou occasionnels, l'aimaient bien. Il remplissait courageusement son office comme tous ceux qui l'avaient précédé. « La plus petite croisière du monde », titrent les dépliants touristiques. Ce bac s'inscrit dans l'histoire de la ville, de la province. Le premier de la lignée remonte à la fin du XVIIe siècle. Il passait les hommes, les chevaux et le bétail. Les moines de l'abbaye de Landévennec étaient venus l'installer. Faut croire qu'au prix d'un denier par passager, homme, bœuf ou cheval, ça rapportait bien pour venir de si loin. À peu près 25 lieues, à cette époque, ça faisait une trotte. Un siècle plus tard, l'abbaye renonçait à l'exploitation du bac au profit de l'hôpital sous administration de la ville. Malgré des vicissitudes diverses, dont quelques naufrages, malgré l'étroitesse des rues de la vieille ville et de ses portes interdisant le passage de chars ou de carrioles, malgré la création de routes modifiant les accès de la ville, le bac perdure toujours. Il y a beau temps qu'il ne transporte plus ni bétail ni chevaux. Seulement des piétons, parfois des bicyclettes, et aussi, de loin en loin, quelques chiens aventureux que le capitaine, débonnaire, laisse passer sans payer. En l'année 2013, le bac dont nous parlons, fièrement nommé le gouverneur, successeur lui-même du petit château, fut promis dans un assez bref délai à une semi-retraite, remplacé par un catamaran, jouvenceau électrique, silencieux, inodore et répondant aux vœux pressants de quelques élus teintés de vert. Le petit château serait définitivement réformé, on frémit en subodorant le sens caché de ce terme, et le vieux gouverneur resterait, jusqu'à quand, en retrait, remplaçant le titulaire les jours de maintenance ou en renfort les jours d'affluence de période estivale. Ce beau programme fut suivi à la lettre et le nouveau bac du passage, baptisé le Vachic, nom étrange compris par les seuls concarnois de souche ancienne, mais c'est une autre histoire, tout neuf, très blanc, à peine touché de bleu, silencieux et sans odeur, tout fier de ses pontons d'accostage, neufs, modernes, sécurisés, polissés, a pris son service au printemps 2017. De temps à autre, comme aujourd'hui, quand le Vachic a besoin d'aller se faire recharger, contrôler, vérifier, lustrer, le gouverneur vient le remplacer. J'aimerais bien pouvoir être seule, avec lui, dans un coin tranquille de l'arrière-port, pour lui conter une histoire que j'ai rêvée, mêlant la réalité et mon imagination. 2. En l'année 1986, un nouveau bac du passage entrait en service. Qu'il était joli, tout neuf et pimpant, avec sa coque vert billard, ses banquettes de plastique jaune-orangé et, luxe suprême, son toit tout blanc. Mais oui, il avait un toit. Fini les traversées sous la pluie battante ou le crachin obstiné et pénétrant. On était au milieu des années 1980, que diable. sans négliger la pêche, sa vocation première depuis des siècles, ni les chantiers navals en pleine expansion, la petite ville était désormais, résolument, une station touristique. La preuve, on parlait déjà d'installer des parcs-maîtres en ville, ce qui fut fait 15 ans plus tard. Il allait de soi qu'on ne pouvait négliger le confort du visiteur, du vacancier, si on voulait l'attirer et le retenir. Pas question d'infliger aux touristes les conditions spartiates qu'avaient supportées sans brancher marins, ouvriers et paysans durant les 3 siècles précédents. Son nom, le gouverneur, inscrit en grandes lettres blanches en travers de sa poupe, remplissait d'aise le petit bateau. Il se crut investi d'une mission d'importance et, pendant quelques jours, en tira une gloriole bien excusable. Son prédécesseur, désormais relégué au rang de suppléant, le détrompa sans ménagement. « C'est juste un nom comme ça, en rapport avec la vieille ville, évidemment, mais rien de plus, ricana-t-il.
« Moi, je me rappelle bien le petit château. On ne sait même pas s'il y a eu vraiment un château ici. Maintenant, c'est le nom d'une place,
avec une butte de terre, où on a aménagé un théâtre de verdure. Et des gouverneurs, il y en a eu des palanqués, mon gars. Le plus célèbre, c'était pas un glorieux, l'a perdu la ville, contre les Huguenots, parce qu'il était parti bambocher chez sa maîtresse, là-bas, dans un château, dans la campagne. » Le petit bateau eut quelques regrets, mais l'intensité des choses à découvrir le lui fit vite oublier. Dès les premiers moments de son service, il apprécia le décor, imposant et romantique, des remparts de la ville close. Mais il fut surtout enchanté et tout étourdi par l'animation incessante qui régnait jour et nuit dans le port. Là, en face de son mouillage habituel, les petits bateaux côtiers débarquaient la pêche fraîche du jour, poissons, crustacés, coquillages. Plus gros, les hauturiers, après 1 ou 2 semaines passées loin là-bas en mer du Nord, ramenaient dans leur cale, dormant dans la glace pilée, morue, maquereau, harengs et sole, vers 1 heure du matin, la sirène du port. Mais non, pas une créature de conte, aux chants enchanteurs, une vraie sirène d'alarme, aux cris aigus. La sirène, donc, appelait les dockers pour décharger le poisson et le mettre en place pour la crier de 5 heures. Plus imposants encore, quelques seineurs déchargeaient, 2 ou 3 fois par semaine, de pleines cargaisons de thon congelé sur leur lieu de pêche, très loin là-bas, dans l'océan Indien. C'était une véritable attraction, ces déchargements. Sous les yeux des badauds, étonnés ou connaisseurs, les mâts de charge plongeaient dans les cales et en ressortaient de grands filets, pleins d'énormes poissons, raides à faire peur, qu'ils déversaient dans les camions des conserveries. De temps à autre, l'un des mastodontes s'échappait du filet et s'écrasait au sol avec un bruit sourd. On frémissait rétrospectivement. Et si quelqu'un s'était trouvé en dessous? Le jeune gouverneur ne se doutait pas qu'il verrait disparaître les seineurs partis livrer ailleurs. Le fond de l'arrière-port, dans l'embouchure du Moreau, le cours d'eau arrivant des campagnes, c'était le fief des chantiers navals. On y pratiquait un peu la construction de bateaux neufs, mais surtout la réparation, la remise en état de ceux déjà en service, parfois depuis longtemps. C'est fragile, un bateau, face à la mer, à la fois agressive et sournoise. De l'aube au couchant, 5 jours sur 7, parfois 6, quand l'armateur était pressé, les crissements des vrilles, les rugissements des chalumeaux, le martèlement des tôles retentissaient à travers toute la ville dans une entêtante odeur de métal chauffé, de peinture et de carburant brûlé. L'été, en juillet et août, le vieux port accueillait et accueille encore de nos jours les bateaux-écoles de la Royale, où embarquent les jeunes marins, ceux dont le pompon rouge surmontant le bâchis bleu et blanc porte bonheur quand on le touche, ce qui ne coûte aux jeunes filles, et même aux moins jeunes, qu'un baiser plus ou moins chaste. 8 bateaux, qui portent pour la plupart des noms de fauves, le lion, le jaguar, le lynx, le tigre, etc. C'est une attraction, car même ainsi au repos, la toute petite équipe qui assure la garde de chaque bâtiment respecte des consignes strictes de tenue et de cérémonial, uniforme, drapeau, salut aux montées à bord. Au fil du temps, marchands de bestiaux et maraîchers ont disparu. Mais le bac est toujours très utilisé. Le grand parking du passage permet d'éviter les encombrements du centre-ville. Le gouverneur eut vite conscience de son utilité et apprécia les saluts et les remerciements de bon nombre des passagers. Pour être juste, il y a aussi des râleurs, reprochant parfois aigrement l'attente aux heures d'affluence, le roulis ou le tangage, ou même l'embarquement intempestif d'un paquet de mer, lors des grandes marées ou par mauvais temps. Bref, les fortunes de mer, si l'on peut dire. Parce que la mer, la vraie, celle dont rêvent tous les bateaux et tous les marins du monde, c'est tout autre chose. Malgré la juste fierté de son service, le petit bateau était rongé par d'incessants regrets. À chaque traversée du passage à la ville close, le chenal lui offrait la perspective de sa sortie. Il rêvait devant cette vision, moteur battant. Il rêvait de filer tout là-bas, au sud, vers le grand large, les flots libres, la mer infinie, les îles, toutes les îles, les désertes ou les habitées, les rebutantes ou les luxuriantes, les paradisiaques ou les infernales. Dans l'autre sens, il tournait la poupe aux grands horizons, et l'activité du port le distrayait un peu de ses rêves impossibles. 3 ou 4 fois par an, son capitaine lui offrait quelques minutes d'un espoir fantastique. Il s'écartait du sempiternel trajet est-ouest, mettait cap au sud. La mer s'ouvrait à lui. La dernière bouée rouge à tribord franchie, il resterait la grosse verte, à bâbord. Il pourrait s'élancer enfin vers l'inconnu. Hélas, la bouée verte n'était jamais passée. Il n'allait jamais plus loin que le port de plaisance, avant même la sortie du chenal. Là où des bateaux divers se prélassaient, bien accrochés à leurs amarrages, et de septembre à avril, tous les voiliers blancs à spies rouges bordeaux de l'école de voile des Glénans, mondialement connue. Le grand voyage tant espéré se soldait par la récupération d'une caisse de criée tentée, elle aussi, par l'appel du large, ou le retrait de la zone de circulation du voilier d'un plaisancier, mais la marinée, incapable de manœuvrer correctement. D'espoir fou en déception cruelle, le temps passait pourtant. Le capitaine, qui avait conduit les premières bordées du gouverneur, prit sa retraite. Son successeur était encore jeune, mais un accident malencontreux lui avait laissé des séquelles lui interdisant la vie de marin au long cours dont il avait rêvé. Le gouverneur et lui étaient faits pour s'entendre, avec leurs rêves impossibles de vastes horizons mouvants, d'alizés et de déferlantes. À défaut de voguer grand largue, Lannic apporta à son service une fantaisie ravissante. Selon son inspiration, tantôt il chantait à tue-tête quelque chanson bretonne ou un chant de marin quelquefois osé, tantôt faisait mine de ne parler que breton, où il contait, avec talent, des histoires de sirènes, d'îles et de sorcières. Dans l'étroite cabine sans porte, campée devant son gouvernail, on ne remarquait pas sa claudication. Avec sa haute stature, ses larges épaules, ses cheveux bruns déjà striés d'argent, toujours en désordre, il avait belle allure. Et quand il se retournait pour vendre les billets, son regard clair, bleu au soleil, vert sous le crachin, faisait des ravages. Un matin de grosses averses de printemps, juste au moment de déhaler, une silhouette menue, encapuchonnée de jaune vif, apparut en haut de l'embarcadère, tout courant et faisant de grands signes. Lannic stoppa sa manœuvre et attendit le passager. C'était une passagère. Pour remercier, elle offrit, en prenant son billet, un grand sourire rose pivoine et éclat de perles, et un éclair amical et rieur dans 2 yeux d'améthyste. Le capuchon tomba, dévoilant des boucles blondes qui ensoleillèrent tout le bateau. La pluie cessa subitement. Lannic et le gouverneur étaient tombés amoureux, victimes d'un coup d'arc-en-ciel. Celui-ci, ou plutôt ceux-ci, car ils étaient deux, merveilleusement jumeaux, surplombaient le port, ébaubissant tous ceux qui le virent comme moi-même. Pardonnez-moi cet aparté, mais j'ai revu semblables arcs-en-ciel à 14h45, jeudi dernier, 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et depuis, je me demande bien ce qui s'est passé ce jour-là dans ma ville. Si j'apprends quelque chose, je vous tiendrai au courant. Tout le printemps et l'été, ils vécurent comme dans un rêve. La saison touristique battait son plein, les passagers affluaient. Comme chaque année, d'autres capitaines avaient été embauchés en renfort. Le petit château reprenait régulièrement du service. Le gouverneur travaillait 15 ou 16 heures par jour, Lannic un peu moins, législation oblige. Cette période fiévreuse leur fut un vrai bonheur, car 2 fois par jour et 6 fois par semaine, Océane, oui, elle s'appelait Océane, qui habitait au passage, avait trouvé du travail en ville close dans une boutique de souvenirs, faisait la traversée à bord et tout s'illuminait. Lannic et Océane avaient fait connaissance. Ils se tutoyaient. Parfois, Lannic prenait discrètement la main d'Océane et le gouverneur était un peu jaloux de cette familiarité. Le soir du 14 juillet, le service du bac traîna encore plus tard que d'habitude, à cause du bal public et du feu d'artifice qui maintenait les gens dehors dans la douce nuit d'été. La nique et le gouverneur avaient, par intermittence, pendant leur traversée, vu, haut dans le ciel, les fusées, pétards, bouquets et autres cascades multicolores tirées tout là-bas sur la corniche. Est-ce cela qui donna des idées au capitaine ? Mystère. À la mi-août, la nique évoqua avec Océane le feu d'artifice prévu pour clôturer la semaine suivante la célèbre fête folklorique des filets bleus, et il invita la jeune femme à venir l'admirer à bord. Le gouverneur fut un peu interloqué. Ce soir-là, il travaillerait jusqu'à minuit passé. Les premières fusées étaient prévues à 23 heures. Pas question de cesser le service. Admirer le spectacle dans un incessant va-et-vient entre les deux rives n'était pas très affriolant. La semaine de la fête fut chaude. Le beau temps ne faiblissait pas malgré l'arrivée des grandes marées qui commenceraient le samedi. La petite ville grouillait de monde. Les poissonnades rassemblaient habitants et touristes en de joyeuses lipées. Les animations diverses, expositions, concerts et bals faisaient le plein. Les visiteurs achetaient, les commerçants vendaient. Océane s'avouait un peu fatiguée, mais elle avait toujours, pour la nique et le gouverneur, le lumineux sourire qui les emplissait de bonheur. Le dimanche, jour de clôture de la fête, le temps radieux se couvrit très légèrement. Ce fut un soulagement, car, défilé à travers la ville en costume de drap lourd et de velours brodé sous un soleil de plomb, n'est pas confortable. La pluie ou le crachin, eux, sont absolument désastreux pour les jolis cols et les somptueuses coiffes amidonnées. Bref, cette année, tout s'annonçait sous les meilleurs auspices. Dans l'après-midi, la mer était juste un peu houleuse. La nique devait être attentif lors des accostages, le flot montant bousculant légèrement le gouverneur. Mais ils avaient connu des conditions plus rudes lors des tempêtes d'équinoxe. Tard dans la soirée, Océane les rejoignit. Elle tassa discrètement sa mince silhouette dans un angle de la minuscule cabine, et contre, tout contre la nique, du même coup. Ils firent quelques allers-retours entre les deux rives. Soucieux de voir au mieux le feu d'artifice, bien des gens quittaient la ville close et venaient au passage prendre le sentier de bord de mer. Ils seraient ainsi quasiment aux premières loges, mais sans la foule qui se pressait sur la corniche. Dans le sens passage ville close, il n'y avait personne. Et c'était bien sur cela que comptait la nique. Peu avant 11 heures, le gouverneur quitta le ponton du passage. À son bord, Océane était la seule passagère. En face, la file d'attente s'allongeait encore. Au plein milieu du chenal, le gouverneur, comme habituellement, regarda au loin, vers le large. Mais la nuit et les lumières du port ne révélaient qu'une surface moirée, agitée de sursauts crêtés d'écume. Il attendit le savant coup de barre qui le ferait virer en demi-cercle vers l'embarcadère. La main ferme de la nique le maintint droit devant. Il fut d'abord interloqué, puis il comprit. Ses deux moteurs en hoquetèrent de joie. Enfin, enfin, il filait en avant toutes vers le large. Cette fois, pas de voile maladroit, pas de caisse en goguette, pas de parbattage égaré. Il partait bien vers l'immense océan, vers les espaces infinis, vers l'inconnu. C'est à peine s'ils entendirent les appels et les exclamations ahuries ou furieuses des passagers abandonnés et désappointés. La nique serrait Océane dans le creux d'un bras, mais capitaine responsable n'en surveillait pas moins sa route et tenait ferme sa barre. Ils passèrent sans un regard le port de plaisance à tribord, le môle qui le protège, puis à bâbord, la bouée verte, la baie s'ouvrait devant eux, bel arc de cercle, avec ses mystérieuses lumières lointaines, clignotements de phares, fanaux discrets de quelques bateaux. Une lune capricieuse jouait avec des nuages nonchalants, révélant des vagues moirées et nerveuses qui tapaient amicalement contre la coque, comme applaudissant à cette escapade inattendue, folie joyeuse d'amoureux tout neuf. Une détonation éclata, suivie d'un chuintement de soie déchirée. Un immense parasol d'étoiles multicolores s'épanouit juste au-dessus d'eux. Océane eut un petit cri de souris surprise, le museau dans le fromage, et le gouverneur un hoquet libérant une forte odeur de gasoil. Durant près d'une demi-heure, ils restèrent là, bercés par le flot, tour à tour plongés dans le noir, puis illuminés de couleurs merveilleuses et fugaces. Bien sûr, je pourrais prolonger l'histoire, emmener nos héros vers une île inconnue, paradisiaque et merveilleuse, où ils vivraient heureux, avec beaucoup de dauphins et de sirènes. Je pourrais opter pour un récit dramatique, en créant une vraie tempête qui aurait raison du courage et de la tenue en haute mer du petit bateau, peut-être aussi de ses passagers. Ou alors le ramener à terre
pour affronter les ennuis
qui attendaient inévitablement la nique. Et si, tout simplement, je laissais planer le mystère et travailler à son tour votre imagination et non plus la mienne. Ici se termine Le Bac du Passage de Françoise Mangeot.